Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Au menu du Grand Dialogue de ce lundi 2 mars 2015, une multitude d'interrogations, toutes se rapportant à un même sujet, le pourparlers inclusif intermalien à Alger. Les négociations ont progressé ces derniers jours. Elles semblent même désormais entrer dans une phase décisive. L'illustration, c'est un document appelé préaccord qui en est sorti. C'est donc des différents aspects de ce préaccord que nous allons parler avec nos invités au nombre de 4, dont 2 au téléphone. Moussa Ag Assari de la coordination que nous allons joindre à Paris et Sidi El Meidi Ag Albarka qui se trouve lui à Cayo. Les deux autres invités, Zveti Ag Akado de la Société Civile du Nord et Boubacar Touré, le secrétaire à la communication du RPM, sont ici en direct avec moi dans ce studio. Je m'appelle Seydou Fomba. À toutes et à tous, bienvenue.
Studio Tamani.
À Alger, où se déroule le pourparler intermalien, les lignes commencent à bouger. On est en tout cas tenté de croire que c'est le cas avec ce document appelé préaccord au bas duquel l'État malien et la plateforme ont apposé leur signature. C'était donc hier dimanche. D'ailleurs, pas plus tard que vendredi, tout le monde, je veux dire tous les acteurs de la crise, semblaient disposés à faire de même. La surprise, si l'on peut l'appeler ainsi, est venue du côté de la coordination des groupes armés, les MNLA et ses alliés. Alors pourquoi les MNLA et ses alliés n'ont pas accepté pour l'heure de signer les préaccords? La question est posée à Moussa Ag Assari, c'est le porte-parole du MNLA. Il est à Paris.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis le représentant de la coordination des mouvements de l'Azawad en Europe. Et je peux vous dire que la situation qui s'est passée ces derniers jours interpelle tout un chacun de nous. Parce que un accord imposé n'est pas un accord.
Imposé par qui, Moussa Gassari? Imposé par qui cet accord?
Pardon?
Vous parlez d'accord imposé. Il est imposé par qui?
Il est imposé par les partis qui veulent absolument que la coordination des mouvements de la droite signe sans consulter sa base, alors que c'est même prévu dans la feuille de route du 24 juillet 2014. Donc on nous avait demandé de signer un document avant même de revenir à notre population, à la base, au niveau des différentes localités qui, pendant ce temps, manifestent pour dire qu'elles veulent savoir ce qu'il y a dans le document qui va être paraffé à Alger, dessiné à Bamako, comme certains le disent.
Vous jugez indispensable de revenir encore à la base pour expliquer, y aurait-il un petit problème par rapport à la représentativité des délégués de la coordination au pourparler? Moussa Ag Assari? Moussa Ag Assari? Alors, je crois que la ligne se détériore. Nous allons tenter, si elle n'est pas un peu mieux que cela, nous serons obligés de revoir plus tard. Je disais, vous estimez qu'il faut absolument revenir encore à la base pour expliquer. Je voudrais donc vous demander s'il y a un problème par rapport à la représentativité des délégués de la coordination au pourparler. Moussa Gassari, je crois que nous allons vous retrouver un peu plus tard. Alors, nous allons essayer de revenir ici dans ce studio. Nous parlions tout à l'heure du refus du mouvement, de la coordination donc des groupes armés de signer les documents. Alors, vous qui êtes ici dans ce studio, M. Touré Boubacar et M. Akado, pensez-vous qu'on doit banaliser ce cas en se disant que ce n'est que partie remise, M. Touré?
Bonsoir aux auditrices, auditeurs de Studio Tamani et Radio Connectée sur le réseau Tamani. Banaliser, d'abord, je respecte généralement l'opinion de l'autre. C'est une pratique démocratique. Si on fait recours à ça aujourd'hui, c'est peut-être pas mauvais, mais en toutes circonstances, on doit avoir le même réflexe. Avant les premiers coups de feu, c'était intéressant de consulter la base, Mais si c'est par cette voie que nous devons arriver à la paix définitive, durable et globale, dans un Mali un indivisible, laïque, républicain et démocratique, rien n'est de trop, et rien ne vient tard pour arriver à une solution durable. Je respecte dans ce cas-là l'opinion, la position prise, tout en espérant que si on parle d'accord imposé aujourd'hui, cet accord s'impose par la souffrance que vivent les Maliens vivant dans cette zone qui est sous pression d'insécurité depuis un certain nombre de temps.
Je crois que nous avons Moussa Assarid en ligne. Si c'est bien le cas, oui, la question que je vous pose à présent, les gens qui représentent, les délégués qui représentent donc la coordination au pourparler, c'est des gens qui sont investis quand même de la confiance, de la base. Est-ce que vous pensez qu'il y a forcément une nécessité de revenir encore là-bas pour expliquer?
Bien sûr, parce que c'est le document final. Et le document final doit être présenté à la population. C'est ça qui a été prévu. C'est ça qui a été prévu. Et en plus, nous avons fait des amendements, notre délégation a fait des amendements à ces documents qui n'ont pas été pris en compte. Donc, pour cela, nous avons fait une déclaration hier et nous avons demandé à ce que il y ait une restitution de ce document qui va dans le bon sens. Nous n'avons pas rejeté le document. Nous avons souhaité qu'on nous laisse le temps d'aller revoir la base, d'aller revoir la population pour leur expliquer les bien fondés de ce document. Donc vous... qui est très différent de ce que nous avons déposé, des documents que nous avons déposés, c'est-à-dire à la fois de notre offre de paix sur la fédération, mais aussi de nos amendements sur le document qui nous a été remis le 25 février dernier.
Moussa Agassarid, pas plus tard que le vendredi, on apprenait quand même que la coordination était disposée à aller à une signature, qu'elle était donc prête à faire à accepter ce qui était proposé par la médiation.
Mais vous parlez de rumeurs. Moi, je vous parle de la décision qui a été prise par la coordination des mouvements de l'Azawad, surtout aussi par le fait que sur le terrain, il y a plusieurs manifestations, plusieurs personnes qui souhaitent savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce document de 30 pages.
Alors ça veut dire que vous ne pensez pas qu'il s'agisse d'un refus, Moussa Agassarid?
De quoi?
Il ne s'agit donc pas d'un refus?
Non, il s'agit de revoir la base et puis, puisque nous, notre revendication principale, c'est la fédération. Il n'y a pas de fédération dans ce document. Ensuite, il n'y a pas d'autonomie. Donc, il n'y a pas d'autogestion comme on le souhaite, puisque rien de tout ça ne figure dans le document. Est-ce qu'on peut le signer sans consulter la population, la base?
Voulez-vous dire que si les conditions que vous exigez ne sont pas remplies, et il n'est pas question de signer ce document? Une dernière question que je vous pose.
On ne pouvait pas signer le document de décentralisation sans consulter à la fois les populations civiles, mais aussi les combattants qui sont sur le terrain et qui ont le droit de savoir exactement ce qui est écrit dans ce document et qui va les engager demain.
Alors, on vous retrouvera un peu plus tard, Moussa Agassarid. Nous allons nous diriger vers donc au CAI. À CAI se trouve justement Sidi El Mehdi Ag Al-Bakka. Il est chargé de communication de la plateforme, autrement dit Gatia. Alors, dites-nous, Sidi El Mehdi, vous êtes en ligne?
Oui, je suis avec vous.
Alors, vous, le Gatia, signé ce document. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez comme sentiment après la signature de ce document?
Bon, d'abord, avant de répondre à votre question, je remercie tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Et je précise que Moussa, qui est en train de parler de la base. Il faut que Moussa nous explique ce que c'est la base. Est-ce que la base, ce sont les femmes, les 150 femmes et les 200 jeunes qui sont en train de manifester?
Nous avons quelques problèmes avec la ligne. Nous revenons ici dans ce studio. Cette fois-ci, nous allons nous tourner du côté de Sveti Aga Akadou, de la Société Civile du Nord. Sveti Aga Akadou, vous avez donc entendu tout de suite la réaction de Moussa Aga Sari depuis Paris par rapport au refus du MNLA qui n'a donc pas voulu apposer sa signature à ce document qu'on appelle pré-accord. Qu'est-ce que vous en pensez?
Merci de m'avoir donné la parole. Je commence par saluer, ce n'est pas habituel que je salue les gens du MNLA, mais je trouve que c'est responsable de leur part, sachant les réactions, les préoccupations ou bien les idées qu'ils ont inculquées à leur base, qui encore une fois, entre guillemets, est une base squelettique, n'est-ce pas ? Même qu'elle est squelettique, ils ont eu le courage quand même de dire « Nous allons retourner à cette base-là et la convaincre. » Mais en même temps, je suis convaincu que c'est du cinéma qu'on est en train de faire. Quand Moussa Aga Sari pense que ce qu'ils ont cherché, ils ne l'ont pas obtenu, nous disons qu'ils l'ont largement obtenu. Quand il lit les questions politico-institutionnelles, il n'y a pas d'autonomie écrite, il n'y a pas de fédéralisme, mais ce n'est ni plus ni moins quand on dit que les populations vont gérer leurs propres affaires selon leurs spécificités. C'est très clair là-dessus. Ou bien peut-être qu'il s'est dit qu'au Mali, ici, on ne lit pas, on est trop superficiel et nos autorités sont tellement à terre qu'elles n'ont d'autre choix que d'accepter. Et cela me ramène à ces autorités-là qui, elles, au contraire, contrairement à ce que les MNLA a fait, nous ont largement insulté. Si je me rappelle de toutes les rencontres qui ont eu lieu sur ce territoire-là, pendant des mois et des mois, recommandation sur recommandation, assurance sur assurance, n'est-ce pas, la dernière tout près. Je me rappelle, j'étais en face de Boubacar Touré dans le même atelier. On a tout dit et rien de ce qu'on a retenu ne nous est revenu. C'est-à-dire qu'on a mis une croix sur tout ce pratiquement les 98% de nos recommandations ont été ignorées. Et c'est nous le Mali, c'est nous les 15, quelques millions de Maliens, c'est nous tous qui avons dit la même chose. Malheureusement, encore une fois, nos autorités, elles ont pris l'habitude de nous mépriser et elles ont solennellement exécuté, n'est-ce pas, le Mali. Nous pensons que cet accord-là n'est ni plus ni moins que le démantèlement du Mali. En tout cas, sans rentrer dans les conclusions, je commencerai par dire qu'ils seront entièrement responsables de la suite des événements. Parce qu'ils le savent, ils l'ont dit, ils l'ont répété, et le camp gouvernemental, et le camp opposé, et la société, tout le monde a dit que ça, ce n'est pas bon pour le Mali.
Studio
et ils ont
Tamani,
osé le signaler.
Il est 18h30.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Pour la suite donc de ce débat, nous allons nous diriger directement sur Kaye, à Kaye où se trouve Sidi Elmedi Ag Al-Baka. Il est le chargé de communication de la plateforme. Alors, Sidi Elmedi, vous nous avez suivi jusqu'ici le document. L'État y a posé sa signature. Vous aussi, le Gatia, le MNLA ne l'a pas signé. Alors, qu'est-ce que ça vous dit?
Une fois de plus, je vous remercie pour m'avoir donné la parole. Je remercie les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Avant de répondre à votre question, moi je voudrais juste qu'on explique un peu des détails. Il faut que Moussa comprenne que la base, ce n'est vraiment pas les 150 personnes et les 200 jeunes qui sont en train de faire du bruit à Kidal. Et la base dont il a parlé est aujourd'hui en train de réclamer la paix et le retour chez soi. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que des milliers de nordistes ont été chassés de chez eux et ils ne peuvent pas rentrer parce que Moussa et ses semblables continuent de les terroriser. Maintenant, cet accord, moi je sais qu'il n'y a jamais de bon ou de mauvais accord, mais si c'est pour aller à la paix définitive,
si c'est pour aller dans un sens d'un Malien indivisible, laïque et prospère, si c'est pour que les autorités maliennes et les forces armées de sécurité reviennent à Kidal, moi je pense que c'est déjà un pas vers la solution. Mais par contre, il faut reconnaître qu'il y a, beaucoup de choses à revoir. Mais je pense que là aussi, la société civile malienne telle que je la connais ne va pas se taire là-dessus.
Donc vous-même, vous acceptez qu'il y a quand même des choses à revoir, il y a donc des insuffisances.
Il n'y a jamais une chose parfaite à 100%. Vous conviendrez avec moi que ça n'existe pas. De toutes les façons, les mots sains et semblables ne doivent pas refuser de signer cet accord parce que quelque part, il les met à l'aise. Hein. Il faut le reconnaître. Seulement, à moins qu'ils nous demandent de leur donner le palais présidentiel de Koulba, sinon presque ils ont tout eu dans cet accord.
Nous retenons ici, dans ce studio, nous tournons du côté de Boubacar Touré. Alors, M. Touré, dites-nous, le refus de la coordination de signer le préaccord, est-ce que cela peut créer un risque pour l'aboutissement des discussions à Genève?
Avant le refus d'une des parties, je réagis au jugement très sévère de mon ami Assibit. Et quand il pense que le gouvernement ne s'est pas assumé, ce que moi je retiens dans toute cette discussion, le président de la République est resté intransigeant sur l'unité du pays, l'intangibilité du territoire, la République, la laïcité et la démocratie. Maintenant, le diable est dans le détail. Un document du genre fait par des humains, c'est clair et net qu'il peut y avoir des faiblesses. Mais au-delà de ces faiblesses, il y a des mesures d'accompagnement dans l'application. Il y a des systèmes d'évaluation, de réajustement. Et intégrons que c'est une œuvre humaine qui a besoin de perfection au fur et à mesure qu'on avance. Mais l'important aujourd'hui, que les armes se taisent et que l'État soit sur toute l'étendue du territoire. Une fois cela fait, tout le reste devient gérable.
Monsieur Touré, dites-nous, est-ce que vous pensez que Bamako va lui aussi éprouver le besoin de s'expliquer sur le préaccord?
Absolument, absolument, absolument. Déjà, quand il y a des voix discordantes, quand tu lis la presse aujourd'hui, et quand tu vas sur les réseaux sociaux, c'est clair et net qu'il y a des explications qui s'imposent. Parce que certains pensent, comme Assibit le disait tout de suite, qu'en fait, on ne parle pas de fédéralisme, on ne parle pas d'autonomie, mais quelque part, c'est donné. Je ne dis pas que ça, c'est l'analyse claire, nette de Assibit, mais à lire les journaux, à écouter les réseaux sociaux, il y a un besoin d'explication. La notion Azawad qui est revenue sur tous les documents depuis l'accord de Ouagadougou jusqu'à aujourd'hui, entre griffes disant que cette zone appelée par certains. Et face à cette situation-là, quand tu prends le document en détail, ça renforce la décentralisation. Ça donne une forme d'élection et de gestion au niveau des régions aujourd'hui. Mais si c'est un désengagement pour certains de l'État, ce n'est pas uniquement dans les trois régions du Nord, Mali, Kidal, Gao, Tombouctou. Ça s'appliquerait de la même manière. L'Assemblée régionale de Kaï sera élue dans les mêmes circonstances, les mêmes conditions, aura les mêmes prérogatives en matière d'autonomisation, en matière de gestion. Mais quand on veut faire une lecture biaisée, prendre comme si cela s'appliquerait uniquement aux trois régions du Nord, Mali, c'est ne pas appréhender. Mais ce qui est essentiel et important aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le Mali n'a pas le contrôle de l'ensemble du territoire. Si cet accord peut permettre la reprise en main par le Mali dans la représentation administrative, militaire, socio-sanitaire, mais allons-y dans l'application, apportons les corrections pour que le Mali 1 indivisible demeure.
Alors, Zbeïti Agado de la société civile du Nord, il semble pourtant, selon M. Touré, que les points positifs, il y en a assez dans ces documents.
Mais bien sûr qu'il y en a assez. Il y en a assez et il serait bon que les points positifs soient partagés par l'ensemble des Maliens. On n'a pas besoin de créer des priorisations, je le dis encore. Ce qui est très, très choquant dans ce document-là, c'est que, contrairement à ce que mon frère Touré disait tout de suite, on dit que c'est applicable à l'ensemble des régions, mais il oublie que, quelque part, c'est écrit en priorité d'abord dans ces régions-là. C'est comme si on dit aux autres régions, croisez les bras, nous allons vous rendre jalouses, nous allons vous rendre aigris, nous allons créer toutes les conditions pour que vous vous soulevez, n'est-ce pas? Parce que quand on va prendre la taxe, les impôts d'un gars, d'un monsieur de caille qui souffre de tout, qui manque de tout, et on va aller fabriquer, je ne sais pas moi, des écoles dans lesquelles on va enseigner le tamashek à des gens de Kidal, n'est-ce pas? Vous voyez quelle frustration ça fait. Donc moi je pense qu'on n'a pas besoin de nous pousser dans des extrêmes et nous amener à l'implosion. Je suis un historien, je réagis en historien. Je ne réagis pas en nordiste ni en sudiste, je réagis en malien tout court. Et je sais qu'on ne construit pas une nation en priorisant, n'est-ce pas, des communautés sur d'autres, en priorisant des régions sur d'autres, quand c'est écrit ici que des trois régions auront la latitude de créer leur conseil. Mais ça va se faire chez elles d'abord, c'est écrit ici, vous l'avez signé, ça veut dire que vous allez les observer. Et pendant ce temps, c'est du temps qui va s'écouler, c'est du temps pendant lequel les engagements dans lesquels vous vous êtes engagé ici, vous ne pourrez pas les réaliser parce que quelque part il est écrit que c'est la communauté internationale qui va vous aider. Elle ne vous aidera pas. La communauté qui est venue tirer sur vous ici, la communauté qui est venue vous diviser, la communauté qui est en train de nous imposer cette histoire-là, ne vous aidera pas à réaliser vos engagements. Et vous allez les rater et on vous dira, voilà, vous vous êtes engagé sur ça, vous n'avez pas pu. Et donc, vous donnez libre cours à toutes les autres options. Et c'est de ça qu'on a peur. Et l'histoire retiendra. Retenez cette date-là. Si vous ne revenez pas sur cet accord-là, ça va arriver. De mon vivant ou après ma mort. En tout cas, l'histoire retiendra que vous allez tomber dans ce piège-là si vous ne reculez pas à temps.
Je précise à Sarid, et je dis à Sarid à Sibit, qu'en matière de gestion des affaires de l'État, et ça, c'est une disposition, mais l'État tiendra et veillera à l'équilibre social et local.
Vous n'avez pas ces moyens-là. Vous ne le pouvez pas.
Bon,
vous ne pouvez rien.
Non.
Vous êtes à terre.
Alors, je crois que nous allons.
C'est que vous n'avez pas pu sauver.
Voilà, voilà. Maintenant, nous avons Moussa Assarido.
Ce n'est pas demain que vous allez le sauver.
Monsieur, excusez.
Qu'on soit à terre ne serait pas heureux ni pour toi, ni pour nous, ni pour
nous. Alors, on va se comprendre. Je crois que nous aurons, chacun aura l'occasion de s'exprimer. Nous avons en ligne Moussa Aga Assarido. Moussa Aga Assarido, vous êtes en ligne?
Allô, oui, je vous entends.
Voilà. Dites-nous, ce document que vous étiez en train de critiquer tout de suite, là, les uns trouvent que, bon, il est bon pour l'autre côté. Écoutez, je crois quand même qu'il y a de bons côtés dans ce document. Il y a des bons aspects de côté positif pour toutes les deux parties, non? Il y en a suffisamment dans ce document?
Moi, je suis d'abord très content, vraiment, cette fois-ci, pour une fois, de parler avec vraiment des gens qui connaissent ce de quoi nous parlons, c'est-à-dire un document qui est écrit. Des gens qui aiment leur pays, des gens qui aiment leur population et qui savent ce qui est bien pour eux. Et c'est de ça que nous parlons. Nous parlons de ce qui est bien pour nos différentes populations. Et je salue Sibit, ce qu'il vient de dire. Mais permettez-moi juste de dire quelques mots à mon frère Sidi. Sidi, je te parle, tu m'entends.
Écoutez, l'émission est en français, Moussa Assarido, tout le monde comprend français, tous nos auditeurs comprennent français et l'émission est destinée aux auditeurs. Donc si vous voulez vous exprimer sur un point, vous le faites en français.
Je vais vous dire que ce qu'il a dit par rapport aux 150 personnes qui manifestent à Kidal, même si ces 150 personnes, elles ne méritent pas d'être humiliées, d'être ignorées. Quel que soit le nombre que nous sommes, ou quelles que soient les personnes, elles ont le droit à la dignité. Elles ont des droits à la vie, des droits à l'éducation, des droits à la santé. Et tous ces droits-là, ils sont en train de les réclamer. Comme a dit Essebe tout à l'heure, disons-nous la vérité. Le gouvernement du Mali ne fait que des promesses qu'il ne peut pas tenir. Le territoire est si grand. Les moyens sont si minimes. Les hommes politiques sont si gourmands. Et la corruption gangrène l'ensemble du pays.
Mais ne pensez-vous pas que aujourd'hui, c'est ensemble qu'on peut trouver une solution à tous ces problèmes?
La solution, c'est de se respecter et de se dire qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble et qu'est-ce que chacun peut faire de son côté. Voilà ce que nous pouvons faire. Et la fédération, c'est ce qu'elle dit. Il y a des compétences partagées, des pouvoirs partagés entre les partis, qu'on appelle la fédération, c'est-à-dire l'État fédéral, et il y a des compétences exclusives, des pouvoirs exclusifs. C'est-à-dire que tout ce qui concerne l'éducation, par exemple, on peut considérer, par exemple, la santé locale, on peut considérer tellement d'autres choses, mais on peut mettre certaines choses ensemble. Et vous allez chercher le gouvernement central.
C'est compris, nous allons vous retrouver, Moussa Agassarido. Maintenant, nous allons donner la parole à Sidi Elmedi Ag Albaka, qui est le chargé de communication du Gatia. Il est interpellé directement par Moussa Agassarido.
Moi je précise à Moussa Agassarido d'abord que je ne suis pas son frère, parce que moi mes frères ne tirent pas sur leurs frères. Moi mes frères ne violent pas leurs propres enfants, et moi mes frères ne mettent pas leurs pieds à genoux.
On va aller doucement. Je crois que le but de l'émission, c'est peut-être de s'expliquer à bout des arguments, d'essayer d'apporter quelque chose et aux uns, aux autres et aux auditeurs. Voilà.
Je vais être très rapide. Quand il dit que les 150 personnes ne méritent pas d'être humiliées, moi je lui pose juste une question. Est-ce que pour 150 personnes, il a le droit d'humilier 15 millions de personnes? Ça se fait pas, moi je le dis à moi ça, je suis équidal, je suis interdit d'être équidal parce que j'ai refusé cette bêtise. Donc maintenant, le développement dont on parle, la santé, l'éducation, mais ce sont eux qui ont tout bafoué, qui ont donné les victimes, mais ce sont eux qui ont fermé le centre de santé, ce sont eux qui ont qui est-ce qui a volé le centre des écoles, c'est moi qui suis sans doute, mais ça on s'inspecte.
Alors, nous aurons l'occasion de vous retrouver, Sidi Elmedi Ag Albaka. Entre-temps, nous allons juste pour une trentaine de secondes donner la parole à Boubacar Touré, le secrétaire à la communication du RPM.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Et nous lui avons promis, nous lui donnons donc la parole. Waka Touré, vous êtes le secrétaire.
Non, j'ai quelques réactions quand je vois on est au bilan de l'État, un État à terre, un État qui promet, qui ne respecte pas ses engagements, et Assibit va par rapport au budget et avec un discours incendié, et dire que prendre les impôts d'eux et mettre à. Et l'autre qui parle de corruption. Mais est-ce qu'on a évalué de l'indépendance à aujourd'hui combien de milliards ont été investis au nord par solidarité nationale, au nom de cette même solidarité, pour faire l'équilibre dans le cadre de l'éducation et de la santé, surtout cette éducation et santé qui vient d'être saccagée par ceux-là qui ont osé prendre les armes, et consentir cela au nom de la solidarité nationale? Je crois qu'aucune région du Mali ne contesterait cette disposition et l'État se donnera des moyens comme ça s'est passé dans le temps. En des moments, on a parlé des milliers, des milliards investis pour le développement du Nord. Il faut admettre que le déséquilibre naturel a besoin d'être compensé. Un accord n'a jamais donné satisfaction et moi je crois qu'on va vers un bon accord, d'autant plus que les deux parties, il y a des contestations éventuelles. Il serait intéressant que le gouvernement organise des cadres appropriés pour que les gens qu'on mesure les pour et les contre de cette décision et dans l'application les rectifications possibles. Mais parler de corruption, si on essaie de voir les différents budgets engloutis, qui était à la base de ces corruptions? Nous qui abordons... étaient les animateurs de ces corrigés.
Voilà, voilà. Nous abordons donc le deuxième volet de ce débat. Cette fois-ci, nous allons un peu plus précisément parler du contenu du document qu'on appelle donc pré-accord. Dites-nous, le texte dont il est question parle de décentralisation des régions dotées d'une assemblée régionale élue au suffrage universel direct et d'activation du processus de mise en place d'un Sénat. Ces mesures sont-elles, à vos yeux, susceptibles de faire bouger les choses au Mali? Je pose d'abord la question à M. Zbeti Aga Al-Kadou.
Bon, moi je suis de ceux qui, en tout cas au niveau de la société civile, nous avons réfléchi sur ces questions-là. Nous avions produit des documents dans lesquels il est écrit que nous sommes sur un processus de décentralisation qu'il faut évaluer tout simplement, c'est-à-dire l'ensemble des Maliens peuvent l'évaluer et voir les incorrections, les insuffisances et continuer là-dessus. Mais on n'a pas fini, on n'a pas fait ce travail-là sous je ne sais pas moi, la pression des Kalachnikovs et des barbares. On nous met dans un autre processus. L'État parle de régionalisation qu'il n'a pas expliqué encore aux populations. Personne ne sait ce qui va se passer, rien du tout. Même les intellectuels ne lisent pas, à plus forte raison, le reste des populations. Donc nous sommes dans un tourbillon où personne ne sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, sauf quelques rares personnes comme vous et moi. Sinon, à regarder de près, nous ne sommes pas sûrs de réussir ce qu'on nous propose ici. Une assemblée régionale, et au-delà d'une assemblée régionale, je vois des conseils consultatifs interrégionaux, toutes choses que nous craignons, c'est-à-dire consacrer de fait l'idée d'un espace où des régions vont se mettre ensemble et ensemble elles vont décider, et c'est écrit quelque part que leurs décisions seront juste transmises à un représentant de l'État qui n'aura qu'un avis à donner après exécution de ces... Vous imaginez, ça veut dire que l'État est totalement absent. Il n'aura rien à faire dans ces régions-là. Et à mon avis, ce n'est pas de cette décentralisation-là, ce n'est pas de cette régionalisation-là que nous voulons. Nous sommes un État faible, nous sommes un État qui n'a pas les moyens de certaines de ses politiques. Il faut aller mollo-mollo. Maintenant, il était plus important... En tout cas, moi, ça n'engage que moi. Moi, j'aurais préféré se résoudre à comprendre que les communautés qui ont pris les armes contre leur patrie, prétextant le sous-développement, prétextant la mauvaise gestion, prétextant ceci et cela, que ces communautés-là, que l'on se dise certaines vérités. C'est-à-dire, au lieu de continuer à faire saigner les Maliens, au lieu de continuer à pousser les Maliens vers une indépendance qui va intervenir dans une année, deux, trois ou dix ans. En tout cas, c'est en train de venir depuis 92, nous l'avons dit. L'histoire des intégrations-là n'est que le premier pas. Donc, au lieu de continuer à nous masturber, ou je ne sais pas comment le dire, à nous amener vers un processus qui finalement aboutira à une scission, autant aller tout de suite et arrêter de nous faire souffrir.
Moussa Assarid est en ligne. Nous allons donc essayer de le joindre, je crois. Alors, dites-nous, cette fois-ci, nous nous intéressons à certains aspects du texte du pré-accord, décentralisation, région dotée d'une assemblée régionale élue au suffrage universel direct, processus de mise en place d'un Sénat. Tout ça, ça ne vous dit rien? Vous ne pensez pas qu'avec ces mesures, il est possible que les choses aillent mieux au Mali?
Écoutez, moi j'ai lu l'ensemble des accords qui ont été signés entre les Azawadiens et le gouvernement du Mali. À l'époque, c'était toujours deux belligérants. Comme aujourd'hui, il n'y avait pas une troisième partie qui n'est pas en belligérance avec le gouvernement. D'ailleurs, la paraphe qu'il y a eu hier, c'était entre des pro-Bamako, c'était pro-gouvernement, et le gouvernement. Maintenant, par rapport à la question... Bon, vous avez lu le document, vous savez que l'élection du président de région, il y en avait déjà. Il y avait déjà des régions qui avaient une assemblée régionale. La seule différence, c'est le direct. C'est-à-dire, avant, c'était élection au suffrage universel.
Mais c'est une différence de taille quand même.
Non, je vous en prie. Moi, je connais très bien la décentralisation française. Depuis 15 ans, j'étudie la décentralisation française et je peux vous dire que c'est ce qu'il y a aujourd'hui.
Revenons aux réalités malheureuses. Allez-y, oui.
C'est la régionalisation qu'il y a en France. Et dans le document, il est dit aussi, par exemple, que entre plusieurs régions, il y a un conseil interrégional dont parlait M. Sebet tout à l'heure. Bon, ce sont des petites avancées sur une décentralisation. En plus, quand on dit aussi que l'État cédera sur le budget, sur les recettes du budget, 30% aux collectivités territoriales, mais c'est sur l'ensemble des collectivités territoriales du Mali. Et on ajoute que, avec une attention particulière aux régions du Nord. Ça veut dire quoi?
Ok, c'est compris, Moussa Gassari. Nous allons vous retrouver si le temps le permet. Nous retournons ici en studio. Nous voulons maintenant écouter la réaction de Boakar Touré, qui est le secrétaire à la communication du RPM.
Par rapport à
la décentralisation, assemblée.
Oui, voilà. Moi je. Tout de suite, l'autre Assarid, Moussa Agassarid, il est en train de faire ressortir les points positifs. Et le conseil, il n'est pas dit obligatoirement qu'il y aura un conseil consultatif. Les régions qui estimeront qu'ils ont besoin de ce regroupement également pour faire face à certains axes de développement interrégional. Mais même maintenant, ça s'opère sans que ça ne soit dit. Et il n'est pas dit que les régions, une fois créées, les régions seront obligatoirement dans cette dynamique. C'est des possibilités offertes pour justement combler certains déficits. Et cette décentralisation, la régionalisation, ne pas comprendre aujourd'hui justement notre mission, c'est d'expliquer. Et je sais que l'État se mettra également à expliquer de long en large, nous organiser en parti politique, en association, en société civile, c'est également de notre devoir face à la chose publique, d'expliquer à ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'accéder à ces informations et à les comprendre. La décentralisation telle que définie dans l'accord est une réponse, comme Assibit même tout de suite introduisait, en parlant des différents mots. Santé, école, éducation, qui a été renchérie par Sidi El Mehdi, en doigtant certains acteurs qui sont à la base de ces exactions-là. Si aujourd'hui on a un accord qui puisse arrêter le bruit de la Kalachnikov, que cela soit conduit par l'État, l'État veillera également à l'arbitrage, à l'équilibre, pour qu'il n'y ait pas justement de déséquilibre entre les régions, qu'il y ait une certaine équité dans l'application de la gestion des affaires de la nation. Équité ne veut pas dire égalité. Si cela est compris, l'État, dans ce rôle, s'assumera et cet accord sera conduit à bon port sans que des frustrations d'autres ne naissent de cet accord-là.
Alors, nous allons essayer de joindre Kay. À Kay, il se trouve justement Sidi El Mehdi Ag Al-Kwaka. Il est le chargé de communication de la plateforme, autrement dit Gatia. Alors, Sidi El Mehdi, si vous êtes en ligne, vous nous avez suivi, vous avez certainement une réaction parce qu'on a abordé beaucoup de points.
Bah, écoutez, c'est comme je vous l'ai dit. Cet accord, il a des points positifs, mais il y a aussi des points à revoir. Mais ce que je déplore personnellement, c'est que jusque-là, je n'ai pas senti une idée qui va vers la justice. Parce que moi, je connais bien la crise du nord du Mali. Je ne vais pas comprendre que des gens puissent commettre des crimes contre l'humanité et qui, au nom d'une campagne d'un accord, on les récupère pour les réintégrer dans la société. Ceux qui ont commis les massacres de la Djelhok sont à Kidal, qui doivent être arrêtés et jugés. Ceux qui ont commis les massacres des préfets, des sous-préfets au gouvernorat de Kidal sont au sein du MNLA, ils doivent être arrêtés et jugés. Donc la seule chose que je déplore, c'est l'insistance sur la justice avant d'aller à n'importe quel père.
Alors, nous revenons dans ce studio, on a juste quelques minutes, nous allons aborder quand même un autre aspect, un aspect que nous avons ignoré jusqu'ici.
C'est ce qu'on appelle la période intérimaire. La période intérimaire, vous en savez quelque chose, vous avez pris connaissance du contenu du dossier. En quelques mots, vous allez nous parler de cette période qui doit durer de 18 à 24 mois.
Non, mais très rapidement, la période intérimaire, il y a des propositions dans le projet d'accord qui sera finalisé sur le territoire malien. Si cela était le plus tôt pour mettre fin à cette grande souffrance que nos frères, sœurs, mères, pères ont connue au nord du Mali, et cette période intérimaire, forcément, à partir des dispositions proposées, si cela était arrêté, et forcément, il y a une phase d'adaptation de la constitution de certaines dispositions réglementaires qui sont aujourd'hui dans la constitution et certaines lois et gérant les affaires de la République, et forcément il va falloir des adaptations, mais même sur le terrain. Et dans cette période intérimaire, il faudrait que la Kalachnikov ne soit plus un élément dans le dispositif. Et cantonnement, désarmement, c'est des choses qui doivent montrer la bonne foi et l'engagement de tous. Dans cette période intérimaire, il y a des systèmes de suivi, d'évaluation, de l'application. Mais fondamentalement, par rapport au dispositif constitutionnel et réglementaire, il y a des ajustements à faire qui ne peuvent pas être tout de suite appliqués, sinon on serait dans la violation de la Constitution. Le projet d'accord proposé ne peut pas constituer en tant que tel un élément de violation de la Constitution, d'autant plus que la période intérimaire, en l'intégrant, il y aura ces réajustements pour qu'il n'y ait pas de violation constitutionnelle.
Voilà, c'est sur ces propos que s'achève notre débat, le grand dialogue de ce lundi. Alors, je vous rappelle que nous avons reçu 4 invités. Le premier, Sbeti Agado de la Société Civile du Nord, Moussa Assarid, nous avons joint ce monsieur de la coordination, autrement dit du MNELA à Paris. Au téléphone également, nous avons pu joindre Sidi Elmedi Ag Albaka, il est le chargé de communication de Gatia, donc de la plateforme. Dans ce studio, nous avions également M. Touré Bouaka Touré, donc, qui est le secrétaire à la communication du RPM. Cette émission vous a été donc présentée par Seydou Fomba. À la mise en onde, Salim Diouara, régie vidéo, nous avons Amadou Ouattara. Alors, à la réalisation, nous avons Ousmane Diadje Touré. On se donne donc rendez-vous demain.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.